Chapitre 20 des Trois Mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J. C. Guan. Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas. Chapitre 20. Voyage. À 2 heures du matin, nos quatre aventuriers sortirent de Paris par la barrière Saint-Denis. Tant qu'il fit nuit, ils restèrent muets. Malgré eux, ils subissaient l'influence de l'obscurité et voyaient des embûches partout. Au premier rayon du jour, leurs langues se délièrent. Avec le soleil, la gaieté revint. C'était comme à la veille d'un combat. Le cœur battait, les yeux riaient, on sentait que la vie qu'on allait peut-être quitter était au bout du compte une bonne chose. L'aspect de la caravane, au reste, était des plus formidables. Les chevaux noirs des mousquetaires, leur tournure martiale, cette habitude de l'escadron qui fait marcher régulièrement ses nobles compagnons du soldat, eussent trahi le plus strict incognito. Les valets suivaient, armés jusqu'aux dents. Tout alla bien jusqu'à Chantilly, où l'on arriva vers les 8 heures du matin. Il fallait déjeuner. On descendit devant une auberge que recommandait une enseigne représentant Saint-Martin, donnant la moitié de son manteau à un pauvre. On enjoignit au laquais de ne pas desseller les chevaux et de se tenir prêt à repartir immédiatement. On entra dans la salle commune et l'on se mit à table. Un gentilhomme, qui venait d'arriver par la route de Dammartin, était assis à cette même table et déjeunait. Il entama la conversation sur la pluie et le beau temps. Les voyageurs répondirent. Il but à leur santé. Les voyageurs lui rendirent la politesse. Mais au moment où Mousqueton venait annoncer que les chevaux étaient prêts et où l'on se levait de table, l'étranger proposa à Porthos la santé du cardinal. Porthos répondit qu'il ne demandait pas mieux si l'étranger à son tour voulait boire à la santé du roi. L'étranger s'écria qu'il ne connaissait d'autre roi que son éminence. Porthos l'appela ivrogne. L'étranger tira son épée. « Vous avez fait une sottise, » dit Athos. « N'importe, il n'y a pas à reculer maintenant. Tuez cet homme et venez nous joindre le plus vite que vous pourrez. » Et tous trois remontèrent à cheval et repartirent à toute bride, tandis que Porthos promettait à son adversaire de le perforer de tous les coups connus dans l'escrime. « Et d'un, » dit Athos, au bout de 500 pas. Mais pourquoi cet homme s'est-il attaqué à Porthos plutôt qu'à tout autre? Demanda Aramis. Parce que Porthos, parlant plus haut que nous tous, il l'a pris pour le chef, dit D'Artagnan. J'ai toujours dit que ce cadet de Gascogne était un puits de sagesse, murmura Athos. Et les voyageurs continuèrent leur route. À Beauvais, on s'arrêta 2 heures. Tant pour faire souffler les chevaux que pour attendre Porthos. Au bout de 2 heures, comme Porthos n'arrivait pas, ni aucune nouvelle de lui, on se remit en chemin. À 1 lieue de Beauvais, à un endroit où le chemin se trouvait resserré entre 2 talus, on rencontra 8 ou 10 hommes qui, profitant de ce que la route était dépavée en cet endroit, avaient l'air d'y travailler en y creusant des trous et en pratiquant des ornières boueuses. Aramis, craignant de salir ses bottes dans ce mortier artificiel, les apostropha durement. Athos voulut le retenir. Il était trop tard. Les ouvriers se mirent à railler les voyageurs et firent perdre, par leur insolence, la tête même au froid Athos, qui poussa son cheval contre l'un d'eux. Alors, chacun de ces hommes recula jusqu'au fossé et y prit un mousquet caché. Il en résulta que nos 7 voyageurs furent littéralement passés par les armes. Aramis reçut une balle qui lui traversa l'épaule, et Mousqueton, une autre balle qui se logea dans les parties charnues qui prolongent le bas des reins. Cependant, Mousqueton seul tomba de son cheval. Non pas qu'il fût grièvement blessé, mais comme il ne pouvait voir sa blessure, sans doute il crut être plus dangereusement atteint qu'il ne l'était. « C'est une embuscade, » dit D'Artagnan. ne brûlons pas une amorce, et en route. » Aramis, tout blessé qu'il était, saisit la crinière de son cheval, qu'il emporta avec les autres. Celui de Mousqueton les avait rejoints, et galopait tout seul à son rang. « Cela nous fera un cheval de rechange, » dit Athos. « J'aimerais mieux un chapeau, » dit D'Artagnan. « Le mien a été emporté par une balle. C'est bien heureux, ma foi, que la lettre que je porte n'ait pas été dedans. Ah ça! Mais ils vont tuer le pauvre Porthos quand il passera, » dit Aramis. « Si Porthos était sur ses jambes, il nous aurait rejoints maintenant, » dit Athos. « M'est avis que sur le terrain l'ivrogne se sera dégrisé. » Et l'on galopa encore pendant 2 heures, quoique les chevaux fussent si fatigués qu'il était à craindre qu'ils ne refusassent bientôt le service. Les voyageurs avaient pris la traverse, espérant de cette façon être moins inquiétés. Mais à crève-cœur, Aramis déclara qu'il ne pouvait aller plus loin. En effet, il avait fallu tout le courage qu'il cachait sous sa forme élégante et sous ses façons polies pour arriver jusque-là. À tout moment, il pâlissait et l'on était obligé de le soutenir sur son cheval. On le descendit à la porte d'un cabaret, on lui laissa Bazin, qui, au reste, dans une escarmouche, était plus embarrassant qu'utile, et l'on repartit dans l'espérance d'aller coucher à Amiens. « Morbleu, dit Athos, quand ils se retrouvèrent en route, réduit à 2 mètres et à Grimaud et Planchet. Morbleu, je ne serai plus leur dupe, et je vous réponds qu'ils ne me feront pas ouvrir la bouche ni tirer l'épée d'ici à Calais. J'en jure. » « Ne jurons pas, dit D'Artagnan. Galopons, si toutefois nos chevaux y consentent. » Et les voyageurs enfoncèrent leurs éperons dans le ventre de leurs chevaux, qui, vigoureusement stimulés, retrouvèrent des forces. On arriva à Amiens à minuit, et l'on descendit à l'auberge du Lit d'Or. L'hôtelier avait l'air du plus honnête homme de la terre. Il reçut les voyageurs son bougeoir d'une main et son bonnet de coton de l'autre. Il voulut loger les 2 voyageurs chacun dans une charmante chambre. Malheureusement, chacune de ces chambres était à l'extrémité de l'hôtel. D'Artagnan et Athos refusèrent. L'hôte répondit qu'il n'y en avait cependant pas d'autres dignes de leurs excellences. Mais les voyageurs déclarèrent qu'ils coucheraient dans la chambre commune, chacun sur un matelas qu'on leur jetterait à terre. L'hôte insista. Les voyageurs tinrent bon. Il fallut faire ce qu'ils voulurent. Ils venaient de disposer leur lit et de barricader leur porte en dedans lorsqu'on frappa au valet de la cour. Ils demandèrent qui était là, reconnurent la voix de leur valet et ouvrirent. En effet, c'était Planchet et Grimaud. « Grimaud suffira pour garder les chevaux, dit Planchet. Si ces messieurs veulent, je coucherai en travers de leur porte. De cette façon-là, ils seront sûrs qu'on n'arrivera pas jusqu'à eux. « Et sur quoi coucheras-tu ? » dit D'Artagnan. « Voici mon lit, » dit Planchet. Et il montra une botte de paille. « Viens donc, » dit D'Artagnan. « Tu as raison. La figure de l'hôte ne me convient pas. Elle est trop gracieuse. »« Ni à moi non plus, » dit Athos. Planchet monta par la fenêtre, s'installa en travers de la porte, tandis que Grimaud allait s'enfermer dans l'écurie, répondant qu'à 5 heures du matin, lui et les 4 chevaux seraient prêts. La nuit fut assez tranquille. On essaya bien, vers les 2 heures du matin, d'ouvrir la porte. Mais comme Planchet se réveilla en sursaut et cria « Qui va là ?», on répondit qu'on se trompait et on s'éloigna. À 4 heures du matin, on entendit un grand bruit dans les écuries. Grimaud avait voulu réveiller les garçons d'écurie. Et les garçons d'écurie le battaient. Quand on ouvrit la fenêtre, on vit le pauvre garçon sans connaissance, la tête fendue d'un coup de manche à fourche. Planchet descendit dans la cour et voulut seller les chevaux. Les chevaux étaient fourbus. Celui de Mousqueton seul, qui avait voyagé 100 mètres pendant 5 ou 6 heures la veille, aurait pu continuer la route. Mais par une erreur inconcevable, le chirurgien vétérinaire qu'on avait envoyé chercher, à ce qu'il paraît, pour saigner le cheval de l'hôte, avait saigné celui de Mousqueton. Cela commençait à devenir inquiétant. Tous ces accidents successifs était peut-être le résultat du hasard, mais il pouvait tout aussi bien être le fruit d'un complot. Athos et D'Artagnan sortirent, tandis que Planchet allait s'informer s'il n'y avait pas 3 chevaux à vendre dans les environs. À la porte étaient 2 chevaux tout équipés, frais et vigoureux. Cela faisait bien l'affaire. Il demanda où étaient les maîtres. On lui dit que les maîtres avaient passé la nuit dans l'auberge et réglaient leur compte à 7 heures avec l'hôtelier. Athos descendit pour payer la dépense, tandis que D'Artagnan et Planchet se tenaient sur la porte de la rue. L'hôtelier était dans une chambre basse et reculée. On pria Athos d'y passer. Athos entra, sans défiance, et tira 2 pistoles pour payer. L'hôte était seul et assis devant son bureau, dont un des tiroirs était entrouvert. Il prit l'argent que lui présenta Athos, le tourna et le retourna dans ses mains, et tout à coup, s'écriant que la pièce était fausse, déclara qu'il allait les faire arrêter, lui et son compagnon, comme faux monnayeurs. « Drôle, dit Athos, en marchant sur lui, je vais te couper les oreilles. » Au même instant, 4 hommes armés jusqu'aux dents entrèrent par les portes latérales et se jetèrent sur Athos. « Je suis pris !» cria Athos de toutes les forces de ses poumons. « Au large, D'Artagnan ! Pique ! Pique !» Et il lâcha 2 coups de pistolet. D'Artagnan et Planchet ne se le firent pas répéter 2 fois. Ils détachèrent les 2 chevaux qui attendaient à la porte, sautèrent dessus, leur enfoncèrent leurs éperons dans le ventre et partirent au triple galop. « Sais-tu ce qu'est devenu Athos ?» demanda D'Artagnan à Planchet en courant. « Ah, monsieur, dit Planchet, j'en ai vu tomber 2 à ces 2 coups, et il m'a semblé, à travers la porte vitrée, qu'il le ferait avec les autres. « Brave Athos, murmura D'Artagnan, et quand on pense qu'il faut l'abandonner, au reste, autant nous attend peut-être à 2 pas d'ici. En avant, Planchet, en avant, tu es un brave homme. « Je vous l'ai dit, monsieur, répondit Planchet. Les Picards, ça se reconnaît à l'user. D'ailleurs, je suis ici dans mon pays. Ça m'excite. » Et tous 2, piquant de plus belle, arrivèrent à Saint-Omer d'une seule traite. À Saint-Omer, ils firent souffler les chevaux, la bride passée à leurs bras, de peur d'accident, et mangèrent un morceau sur le pouce, tout debout dans la rue. Après quoi, ils repartirent. À 100 pas des portes de Calais, le cheval de D'Artagnan s'abattit, et il n'y eut pas moyen de le faire se relever. Le sang lui sortait par le nez et par les yeux. Restait celui de Planchet, mais celui-là s'était arrêté, et il n'y eut plus moyen de le faire repartir. Heureusement, comme nous l'avons dit, ils étaient à 100 pas de la ville. Ils laissèrent leurs 2 montures sur le grand chemin et coururent au port. Planchet fit remarquer à son maître un gentilhomme qui arrivait avec son valet et qui ne les précédait que 50aine de pas. Ils s'approchèrent vivement de ce gentilhomme qui paraissait fort affairé. Il avait ses bottes couvertes de poussière et s'informait s'il ne pourrait point passer à l'instant même en Angleterre. « Rien ne serait plus facile, répondit le patron d'un bâtiment prêt à mettre à la voile. Mais ce matin, est arrivé l'ordre de ne laisser partir personne sans une permission expresse de monsieur le cardinal. « J'ai cette permission, dit le gentilhomme en tirant le papier de sa poche. La voici. Faites-la viser par le gouverneur du port, dit le patron, et donnez-moi la préférence. Où trouverai-je le gouverneur? À sa campagne. Et cette campagne est située? À 1/4 d'heure de la ville. Tenez, vous la voyez d'ici. Au pied de cette petite éminence, ce toit en ardoise. Très bien, dit le gentilhomme. Et, suivi de son laquais, il prit le chemin de la maison de campagne du gouverneur. D'Artagnan et Planchet suivirent le gentilhomme à 500 pas de distance. Une fois hors de la ville, D'Artagnan hâta le pas et rejoignit le gentilhomme comme il entrait dans un petit bois. Monsieur, lui dit D'Artagnan, vous me paraissez fort pressé. On ne peut plus presser, monsieur. J'en suis désespéré, dit D'Artagnan, car comme je suis très pressé aussi, je voulais vous prier de me rendre un service.
Lequel?
De me laisser passer le premier.
Impossible, dit le gentilhomme.
j'ai fait 60 lieues en 44 heures, et il faut que demain, à midi, je sois à Londres. J'ai fait le même chemin en 40 heures, et il faut que demain, à 10 heures du matin, je sois à Londres. Désespéré, monsieur, mais je suis arrivé le premier, et je ne passerai pas le second. Désespéré, monsieur, mais je suis arrivé le second, et je passerai le premier. Service du roi, dit le gentilhomme. Service de moi, dit d'Artagnan. Mais c'est une mauvaise querelle que vous me cherchez là, ce me semble. Parbleu, que voulez-vous que ce soit? Que désirez-vous? Vous voulez le savoir? Certainement. Eh bien, je veux l'ordre dont vous êtes porteur, attendu que je n'en ai pas. Moi, et qu'il m'en faut un. Vous plaisantez, je présume. Je ne plaisante jamais. Laissez-moi passer. Vous ne passerez pas. Mon brave jeune homme, je vais vous casser la tête. Oh là, Lubin, mes pistolets. Planchet, dit d'Artagnan, charge-toi du valet, je me charge du maître. Planchet, enhardi par le premier exploit, sauta sur Lubin, et comme il était fort et vigoureux, il le renversa, les reins contre terre, et lui mit un genou sur la poitrine. Faites votre affaire, monsieur, dit Planchet, moi j'ai fait la mienne. Voyant cela, le gentilhomme tira son épée et fondit sur d'Artagnan. Mais il avait affaire à forte partie. En 3 secondes, d'Artagnan lui fournit 3 coups d'épée, en disant à chaque coup « Un pour Athos, un pour Porthos, un pour Aramis. » Au 3e coup, le gentilhomme tomba comme une masse. D'Artagnan le crut mort, ou tout au moins évanoui, et s'approcha de lui pour prendre l'ordre. Mais au moment où il étendait le bras afin de le fouiller, le blessé, qui n'avait pas lâché son épée, lui porta un coup de pointe dans la poitrine en disant « Un pour vous !»« Et un pour moi ! Au dernier les bons !» s'écria d'Artagnan furieux, en le clouant par terre d'un 4e coup d'épée dans le ventre. Cette fois, le gentilhomme ferma les yeux et s'évanouit. D'Artagnan fouilla dans la poche où il l'avait vu remettre l'ordre de passage et le prit. Il était au nom du comte de Wardes. Puis, jetant un dernier coup d'œil sur le beau jeune homme, qui avait 25 ans à peine, et qu'il laissait là, gisant, privé de sentiments et peut-être mort, il poussa un soupir sur cette étrange destinée qui porte les hommes à se détruire les uns les autres pour les intérêts de gens qui leur sont étrangers, et qui souvent ne savent pas même qu'ils existent. Mais il fut bientôt tiré de ses réflexions par Lubin, qui poussait des hurlements et criait de toutes ses forces au secours. Planchet lui appliqua la main sur la gorge et serra de toutes ses forces. « Monsieur, dit-il, tant que je le tiendrai ainsi, il ne criera pas, j'en suis bien sûr, mais aussitôt que je le lâcherai, il va se remettre à crier. Je le reconnais pour un Normand, et les Normands sont entêtés. » En effet, tout comprimé qu'il était, Lubin essayait encore de filer des sons. « Attends, dit d'Artagnan. » Et prenant son mouchoir, il le bâillonna. « Maintenant, dit Planchet, lions-le à un arbre. » La chose fut faite en conscience. Puis, on tira le comte de Wardes près de son domestique. Et comme la nuit commençait à tomber, et que le garrotté et le blessé étaient tous deux à quelques pas dans le bois, il était bien évident qu'ils devaient rester jusqu'au lendemain. « Et maintenant, dit d'Artagnan, chez le gouverneur. » « Mais vous êtes blessé, ce me semble, » dit Planchet. « Ce n'est rien. Occupons-nous du plus pressé. Puis nous reviendrons à ma blessure, qui, au reste, ne me paraît pas très dangereuse. » Et tous deux s'acheminèrent à grands pas vers la campagne du digne fonctionnaire. On annonça Monsieur le comte de Wardes. D'Artagnan fut introduit. « Vous avez un ordre signé du cardinal, » dit le gouverneur. « Oui, monsieur, » répondit d'Artagnan. « Le voici. »« Ah, ah, il est en règle et bien recommandé, » dit le gouverneur. « C'est tout simple, » répondit d'Artagnan. « Je suis de ses plus fidèles. »« Il paraît que son éminence veut empêcher quelqu'un de parvenir en Angleterre. »« Oui, un certain d'Artagnan, un gentilhomme béarnais qui est parti de Paris avec 3 de ses amis dans l'intention de gagner Londres. »« Le connaissez-vous personnellement ?» demanda le gouverneur. « Qui cela ?»« Ce d'Artagnan. »« À merveille. Donnez-moi son signalement alors. Rien de plus facile. Et D'Artagnan donna, trait pour trait, le signalement du comte de Wardes. Est-il accompagné? Demanda le gouverneur. Oui, d'un valet nommé Lubin. On veillera sur eux, et si on leur met la main dessus, son éminence peut être tranquille. Ils seront reconduits à Paris sous bonne escorte. Et ce faisant, monsieur le gouverneur, dit D'Artagnan, vous aurez bien mérité du cardinal. Vous le reverrez à votre retour, monsieur le comte? Sans aucun doute. Dites-lui, je vous prie, que je suis bien son serviteur. Je n'y manquerai pas. Et joyeux de cette assurance, le gouverneur visa le laisser-passer et le remit à D'Artagnan. D'Artagnan ne perdit pas son temps en compliments inutiles. Il salua le gouverneur, le remercia et partit. Une fois dehors, lui et Planchet prirent leur course et, faisant un long détour, ils évitèrent le bois et rentrèrent par une autre porte. Le bâtiment était toujours prêt à partir. Le patron attendait sur le pont. « Eh bien, » dit-il en apercevant D'Artagnan. « Voici ma passe visée, » dit celui-ci. « Et cet autre gentilhomme ?»« Il ne partira pas aujourd'hui, » dit D'Artagnan. « Mais soyez tranquille, je paierai le passage pour nous deux. »« En ce cas, partons, » dit le patron. « Partons, » répéta D'Artagnan. Et il sauta avec Planchet dans le canot. 5 minutes après, ils étaient à bord. Il était temps. À une demi-lieue en mer, D'Artagnan vit briller une lumière et entendit une détonation. C'était le coup de canon qui annonçait la fermeture du port. Il était temps de s'occuper de sa blessure. Heureusement, comme l'avait pensé D'Artagnan, elle n'était pas des plus dangereuses. La pointe de l'épée avait rencontré une côte et avait glissé le long de l'os. De plus, la chemise s'était collée aussitôt à la plaie et à peine avait-elle répandu quelques gouttes de sang. D'Artagnan était brisé de fatigue. On lui étendit un matelas sur le pont, il se jeta dessus et s'endormit. Le lendemain, au point du jour, il se trouva à 3 ou 4 lieues seulement des côtes d'Angleterre. La brise avait été faible toute la nuit, et l'on avait peu marché. À 10 heures, le bâtiment jetait l'ancre dans le port de Douvres. À 10h30, D'Artagnan mettait le pied sur la terre d'Angleterre en s'écriant « Enfin, m'y voilà !» Mais ce n'était pas tout. Il fallait gagner Londres. En Angleterre, la poste était assez bien servie. D'Artagnan et Planchet prirent chacun un bidet, un postillon courut devant eux. En 4 heures, ils arrivèrent aux portes de la capitale. D'Artagnan ne connaissait pas Londres. D'Artagnan ne savait pas un mot d'anglais. Mais il écrivit le nom de Buckingham sur un papier, et chacun lui indiqua l'hôtel du duc. Le duc était à la chasse à Windsor avec le roi. D'Artagnan demanda le valet de chambre de confiance du duc, qui, l'ayant accompagné dans tous ses voyages, parlait parfaitement français. Il lui dit qu'il arrivait de Paris pour affaire de vie et de mort, et qu'il fallait qu'il parlât à son maître à l'instant même. La confiance avec laquelle parlait D'Artagnan convainquit Patrice. C'était le nom de ce ministre du ministre. Il fit seller 2 chevaux et se chargea de conduire le jeune garde. Quant à Planchet, on l'avait descendu de sa monture, raide comme un jonc. Le pauvre garçon était au bout de ses forces. D'Artagnan semblait de fer. On arriva au château. Là, on se renseigna. Le roi et Buckingham chassaient, à l'oiseau, dans des marais situés à 2 ou 3 lieues de là. En 20 minutes, on fut au lieu indiqué. Bientôt, Patrice entendit la voix de son maître qui appelait son faucon. « Que faut-il que j'annonce à Milord Duc ?» demanda Patrice. Le jeune homme qu'un soir lui a cherché une querelle sur le pont neuf en face de la Samaritaine. « Singulière recommandation. Vous verrez qu'elle en vaut bien une autre. » Patrice mit son cheval au galop, atteignit le duc et lui annonça dans les termes que nous avons dit qu'un messager l'attendait. Buckingham reconnut D'Artagnan à l'instant même, et se doutant que quelque chose se passait en France dont on lui faisait parvenir la nouvelle, il ne prit que le temps de demander où était celui qui la lui apportait, et ayant reconnu de loin l'uniforme des gardes, il mit son cheval au galop et vint droit à D'Artagnan. Patrice, par discrétion, se tint à l'écart. « Il n'est point arrivé malheur à la reine, » s'écria Buckingham, répandant toute sa pensée et tout son amour dans cette interrogation. « Je ne crois pas. Cependant, je crois qu'elle court quelque grand péril dont votre grâce seule peut la tirer. »« Moi ?» s'écria Buckingham. « Eh quoi ? Je serais assez heureux pour lui être bon à quelque chose. Parlez, parlez !»«
Prenez cette lettre, » dit D'Artagnan.
« Cette lettre ? De qui vient cette lettre ?»«
De Sa Majesté, à ce que je pense. »
« De Sa Majesté !» dit Buckingham, pâlissant si fort que D'Artagnan crut qu'il allait se trouver mal. Et il brisa le cachet.
« Quelle est cette déchirure ? » dit-il, en montrant à D'Artagnan un endroit où elle était percée à jour.
« Ah ! Ah ! » dit D'Artagnan, « je n'avais pas vu cela. C'est l'épée du comte de Wardes qui aurait fait ce beau coup en me trouant la poitrine. »«
Vous êtes blessé ?» demanda Buckingham en rompant le cachet.
« Oh, rien, » dit D'Artagnan, « une égratignure. »« Juste ciel, qu'ai-je lu ?» s'écria le duc. « Patrice, reste ici. Ou plutôt, rejoins le roi partout où il sera, et dis à Sa Majesté que je la supplie humblement de m'excuser, mais qu'une affaire de la plus haute importance me rappelle à Londres. Venez, monsieur, venez. »
Et tous deux reprirent au galop le chemin de la capitale. Fin du chapitre 20. Chapitre 21 des Trois Mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J. C. Guan. Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas. Chapitre 21. La Comtesse de Winter. Tout au long de la route, le duc se fit mettre au courant par D'Artagnan, non pas de tout ce qui s'était passé, mais de ce que D'Artagnan savait. En rapprochant ce qu'il avait entendu sortir de la bouche du jeune homme de ses souvenirs à lui, il put donc se faire une idée assez exacte d'une position, de la gravité de laquelle, au reste, la lettre de la reine, si courte et si peu explicite qu'elle fût, lui donnait la mesure. Mais ce qui l'étonnait surtout, c'est que le cardinal, intéressé comme il l'était à ce que ce jeune homme ne mît pas le pied en Angleterre, ne fut point parvenu à l'arrêter en route. Ce fut alors, et sur la manifestation de cet étonnement, que D'Artagnan lui raconta les précautions prises, et comment, grâce au dévouement de ses trois amis, qu'il avait éparpillés tout sanglants sur la route, il était arrivé à en être quitte pour le coup d'épée qui avait traversé le billet de la reine, et qu'il avait rendu à M. de Wardes en si terrible monnaie. Tout en écoutant ce récit, fait avec la plus grande simplicité, le duc regardait de temps en temps le jeune homme d'un air étonné, comme s'il n'eût pas pu comprendre que tant de prudence, de courage et de dévouement s'allia avec un visage qui n'indiquait pas encore 20 ans. Les chevaux allaient comme le vent, et en quelques minutes, ils furent aux portes de Londres. D'Artagnan avait cru qu'en arrivant dans la ville, le duc allait ralentir l'allure du sien. Mais il n'en fut pas ainsi. Il continua sa route à fond de train, s'inquiétant peu de renverser ceux qui étaient sur son chemin. En effet, en traversant la cité, 2 ou 3 accidents de ce genre arrivèrent. Mais Buckingham ne détourna pas même la tête pour regarder ce qu'étaient devenus ceux qu'il avait culbutés. D'Artagnan le suivait au milieu de cris qui ressemblaient fort à des malédictions. En entrant dans la cour de l'hôtel, Buckingham sauta à bas de son cheval et, sans s'inquiéter de ce qu'il deviendrait, lui jeta la bride sur le cou et s'élança vers le perron. D'Artagnan en fit autant, avec un peu plus d'inquiétude, cependant, pour ces nobles animaux dont il avait pu apprécier le mérite. Mais il eut la consolation de voir que 3 ou 4 valets s'étaient déjà élancés des cuisines et des écuries et s'emparaient aussitôt de leurs montures. Le duc marchait si rapidement que D'Artagnan avait peine à le suivre. il traversa successivement plusieurs salons d'une élégance dont les plus grands seigneurs de France n'avaient même pas l'idée. Et il parvint enfin dans une chambre à coucher, qui était à la fois un miracle de goût et de richesse. Dans l'alcôve de cette chambre était une porte, prise dans la tapisserie, que le duc ouvrit avec une petite clé d'or qu'il portait, suspendue à son cou par une chaîne du même métal. Par discrétion, D'Artagnan était resté en arrière, mais au moment où Buckingham franchissait le seuil de cette porte, il se retourna, et voyant l'hésitation du jeune homme, « Venez, lui dit-il, et si vous avez le bonheur d'être admis en la présence de Sa Majesté, dites-lui ce que vous avez vu. » Encouragé par cette invitation, D'Artagnan suivit le duc, qui referma la porte derrière lui. Tous deux se trouvèrent alors dans une petite chapelle toute tapissée de soie de Perse et brochée d'or, ardemment éclairée par un grand nombre de bougies. Au-dessus d'une espèce d'autel et au-dessous d'un dais de velours bleu, surmonté de plumes blanches et rouges, était un portrait d'une grandeur naturelle représentant Anne d'Autriche, si parfaitement ressemblant que D'Artagnan poussa un cri de surprise. On eût cru que la reine allait parler. Sur l'autel et au-dessous du portrait était le coffret qui renfermait les ferrets de diamants. Le duc s'approcha de l'autel, s'agenouilla comme eût pu faire un prêtre devant le Christ, puis ouvrit le coffret. « Tenez, lui dit-il, en tirant du coffre un gros nœud de ruban bleu tout étincelant de diamants. Tenez, voici ces précieux ferrets avec lesquels j'avais fait le serment d'être enterré. La reine me les avait donnés. La reine me les reprend. Sa volonté, comme celle de Dieu, soit faite en toutes choses. » Puis il se mit à baiser, les uns après les autres, ces ferrets dont il fallait se séparer. Tout à coup, il poussa un cri terrible. « Qu'y a-t-il ? » demanda D'Artagnan avec inquiétude. « Et que vous arrive-t-il, milord ?»« Il y a que tout est perdu !» s'écria Buckingham en devenant pâle comme un trépassé. « Deux de ces ferrets manquants, il n'y en a plus que 10. » « Milord les a-t-il perdus, ou croit-il qu'on les lui ait volés ?»« On me les a volés, » reprit le duc, « et c'est le cardinal qui a fait le coup. Tenez, voyez les rubans qui les soutenaient, ont été coupés avec des ciseaux. » Si Milord pouvait se douter qui a commis le vol, peut-être la personne les a-t-elle encore entre les mains. « Attendez, attendez !» s'écria le duc. La seule fois que j'ai mis ces ferrets, c'était au bal du roi, il y a 8 jours, à Windsor. La comtesse de Winter, avec laquelle j'étais brouillée, s'est rapprochée de moi à ce bal. Ce raccommodement, c'était une vengeance de femme jalouse. Depuis ce jour, je ne l'ai pas revue. Cette femme est un agent du cardinal. « Mais il y en a donc dans le monde entier ?» s'écria D'Artagnan. « Oh oui, oui, » dit Buckingham, en serrant les dents de colère. « Oui, c'est un terrible lutteur. Mais cependant, quand doit avoir lieu ce bal ?»« Lundi prochain. »« Lundi prochain. 5 jours encore. C'est plus de temps qu'il ne nous en faut. »« Patrice !» s'écria le duc en ouvrant la porte de la chapelle. « Patrice !» Son valet de chambre de confiance parut. « Mon joaillier et mon secrétaire. » Le valet de chambre sortit avec une promptitude et un mutisme qui prouvaient l'habitude qu'il avait contractée d'obéir aveuglément et sans réplique. Mais quoique ce fût le joaillier qui eût été appelé le premier, ce fut le secrétaire qui parut d'abord. C'était tout simple, il habitait l'hôtel. Il trouva Buckingham assis devant une table dans sa chambre à coucher et écrivant quelques ordres de sa propre main. « Monsieur Jackson, lui dit-il, vous allez vous rendre de ce pas chez le Lord Chancelier et lui dire que je le charge de l'exécution de ses ordres. Je désire qu'il soit promulgué à l'instant même. » « Mais, monseigneur, si le Lord Chancelier m'interroge sur les motifs qui ont pu porter votre grâce à une mesure si extraordinaire, que répondrai-je ? Que tel a été mon bon plaisir et que je n'ai pas de compte à rendre à personne de ma volonté. Serait-ce la réponse qu'il devra transmettre à Sa Majesté ? Reprit en souriant le secrétaire. si par hasard Sa Majesté avait la curiosité de savoir pourquoi aucun vaisseau ne peut sortir des ports de la Grande-Bretagne.
Vous avez raison, monsieur, répondit Buckingham. Il dirait en ce cas au roi que j'ai décidé la guerre et que cette mesure est mon premier acte d'hostilité contre la France.
Le secrétaire s'inclina et sortit. Nous voilà tranquilles de ce côté, dit Buckingham, en se retournant vers D'Artagnan. Si les Ferrer ne sont point déjà partis pour la France, ils n'y arriveront qu'après vous.
Comment cela?
Je viens de mettre un embargo sur tous les bâtiments qui se trouvent à cette heure dans les ports de Sa Majesté, et à moins de permission particulière, pas un seul n'osera lever l'ancre. D'Artagnan regarda avec stupéfaction cet homme, qui mettait le pouvoir illimité dont il était revêtu par la confiance d'un roi au service de ses amours. Buckingham vit, à l'expression du visage du jeune homme, ce qui se passait dans sa pensée, et il sourit.
« Oui, dit-il, oui, c'est Anne d'Autriche est ma véritable reine. Sur un mot d'elle, je trahirai mon pays, je trahirai mon roi, je trahirai mon Dieu. Elle m'a demandé de ne point envoyer aux protestants de La Rochelle le secours que je leur avais promis, et je l'ai fait. Je manquais à ma parole, mais n'importe, j'obéissais à son désir. N'ai-je point été grandement payé de mon obéissance, dites, car c'est à cette obéissance que je dois son portrait. »
D'Artagnan admira à quel fil fragile et inconnu sont parfois suspendues les destinées d'un peuple et la vie des hommes. Il en était au plus profond de ses réflexions lorsque l'orfèvre entra. C'était un Irlandais des plus habiles dans son art, et qui avouait lui-même qu'il gagnait 100 000 livres par an avec le duc de Buckingham. « Monsieur O'Reilly, lui dit le duc en le conduisant dans la chapelle, voyez ces ferrets de diamants et dites-moi ce qu'ils valent la pièce. » L'orfèvre jeta un seul coup d'œil sur la façon élégante dont ils étaient montés, calcula l'un dans l'autre la valeur des diamants, et sans hésitation aucune.
« 1500 pistoles la pièce, milord, répondit-il.
« Combien faudrait-il de jours pour faire 2 ferrets comme ceux-là? Vous voyez qu'il en manque 2. »«
8 jours, milord. »«
Je les paierai 3000 pistoles la pièce. Il me les faut pour après-demain. » »«
Milord les aura. » »«
Vous êtes un homme précieux, monsieur O'Reilly, mais ce n'est pas le tout. Ces ferrets ne peuvent être confiés à personne. Il faut qu'ils soient faits dans ce palais. »
« Impossible, milord, il n'y a que moi qui puisse les exécuter pour qu'on ne voie pas la différence entre les nouveaux et les anciens. »«
Aussi, mon cher monsieur O'Reilly, vous êtes mon prisonnier, et vous voudriez sortir à cette heure de mon palais que vous ne le pourriez pas. Prenez-en donc votre parti. Nommez-moi de vos garçons dont vous aurez besoin, et désignez-moi les ustensiles qu'ils doivent apporter. »
L'orfèvre connaissait le duc. Il savait que toute observation était inutile. Il en prit donc à l'instant même son parti.
« Il me sera permis de prévenir ma femme ?» demanda-t-il.
« Oh, il vous sera même permis de la voir, mon cher monsieur O'Reilly. Votre captivité sera douce, soyez tranquille. Et comme tout dérangement vaut un dédommagement, voici, en dehors du prix des 2 ferrets, un bon de 1000 pistoles pour vous faire oublier l'ennui que je vous cause. »
D'Artagnan ne revenait pas de la surprise que lui causait ce ministre, qui remuait à pleine main les hommes et les millions. Quant à l'orfèvre, il écrivait à sa femme, en lui envoyant le bon de 1000 pistoles, et en la chargeant de lui retourner en échange son plus habile apprenti, un assortiment de diamants dont il lui donnait le poids et le titre, et une liste des outils qui lui étaient nécessaires. Buckingham conduisit l'orfèvre dans la chambre qui lui était destinée et qui, au bout d'une demi-heure, fut transformé en atelier. Puis il mit une sentinelle à chaque porte, avec défense de laisser entrer qui que ce fût, à l'exception de son valet de chambre Patrice. Il est inutile d'ajouter qu'il était absolument défendu à l'orfèvre O'Reilly et à son aide de sortir sous quelque prétexte que ce fût. Ce point réglé, le duc revint à D'Artagnan.
« Maintenant, mon jeune ami, dit-il, l'Angleterre est à nous deux. Que voulez-vous? Que désirez-vous? »
Un lit, répondit D'Artagnan. C'est pour le moment, je l'avoue, la chose dont j'ai le plus besoin. Buckingham donna à D'Artagnan une chambre qui touchait à la sienne. il voulait garder le jeune homme sous sa main, non pas qu'il se défiât de lui, mais pour avoir quelqu'un à qui parler constamment de la reine. Une heure après, fut promulguée dans Londres l'ordonnance de ne laisser sortir des ports aucun bâtiment chargé pour la France, pas même le paquebot des lettres. Aux yeux de tous, c'était une déclaration de guerre entre les deux royaumes. Le surlendemain, à 11 heures, les deux ferrets de diamants étaient achevés, mais si exactement imités, mais si parfaitement pareils, que Buckingham ne put reconnaître les nouveaux des anciens, et que les plus exercés en pareille matière y auraient été trompés comme lui. Aussitôt, il fit appeler D'Artagnan. « Tenez, lui dit-il, voici les ferrets de diamants que vous êtes venus chercher, et soyez mon témoin que tout ce que la puissance humaine pouvait faire, je l'ai fait. » « Soyez tranquille, milord, je dirai ce que j'ai vu. Mais votre grâce me remet les ferrets sans la boîte. » « La boîte vous embarrasserait. D'ailleurs, la boîte m'est d'autant plus précieuse qu'elle me reste seule. Vous direz que je la garde. » « Je ferai votre commission mot à mot, milord. » « Et maintenant, reprit Buckingham, en regardant fixement le jeune homme, comment m'acquitterai-je jamais envers vous ?» D'Artagnan rougit jusqu'au blanc des yeux. Il vit que le duc cherchait un moyen de lui faire accepter quelque chose, et cette idée que le sang de ses compagnons et le sien lui allait être payé par de l'or anglais lui répugnait étrangement. « Entendons-nous, milord, répondit D'Artagnan, et pesons bien les faits d'avance, afin qu'il n'y ait point de méprise. Je suis au service du roi et de la reine de France, et je fais partie de la compagnie des gardes de M. des Essarts, lequel, ainsi que son beau-frère M. de Tréville, est tout particulièrement attaché à leur majesté. Il y a plus, c'est que peut-être n'eussé-je rien fait de tout cela, s'il ne se fût agi d'être agréable à quelqu'un qui est madame à moi, comme la reine est la vôtre. Oui, dit le duc en souriant, et je crois même connaître cette autre personne. C'est... Milord, je ne l'ai point nommé, interrompit vivement le jeune homme. C'est juste, reprit le duc. C'est donc à cette personne que je dois être reconnaissant de votre dévouement. Vous l'avez dit, milord, car justement, à cette heure qu'il est question de guerre, je vous avoue que je ne vois dans votre grâce qu'un Anglais, et par conséquent, qu'un ennemi que je serais encore plus enchanté de rencontrer sur le champ de bataille que dans le parc de Windsor ou dans les corridors du Louvre. Ce qui, au reste, ne m'empêchera pas d'exécuter de point en point ma mission et de me faire tuer, si besoin est, pour l'accomplir. Mais je le répète à votre grâce, sans qu'elle ait personnellement pour cela plus à me remercier de ce que je fais pour moi dans cette seconde entrevue que de ce que j'ai déjà fait pour elle dans la première. « Nous disions-nous, fier comme un Écossais, » murmura Buckingham. « Et nous disons-nous, fier comme un Gascon, » répondit D'Artagnan. « Les Gascons sont les Écossais de la France. » D'Artagnan salua le duc et s'apprêta à partir. « Eh bien, vous vous en allez comme cela? Par où? Comment ?»« C'est vrai. Dieu, madame, les Français ne se doutent de rien. » J'avais oublié que l'Angleterre était une île, et que vous en étiez le roi. Allez au port, demandez le brick Le Sand, remettez cette lettre au capitaine, et il vous conduira à un petit port où certes on ne vous attend pas, et où n'abordent ordinairement que des bâtiments pêcheurs. Ce port s'appelle Saint Valery. Mais attendez donc, arrivez là, vous entrerez dans une mauvaise auberge sans nom et sans enseigne, un véritable bouge à matelots. Il n'y a pas à vous tromper, il n'y en a qu'une. Après, vous demanderez l'hôte et vous lui direz « Forward ». Ce qui veut dire « En avant », c'est le mot George. Il vous donnera un cheval tout scellé et vous indiquera le chemin que vous devez suivre. Vous trouverez ainsi 4 relais sur votre route. Si vous voulez, à chacun d'eux, donnez votre adresse à Paris. Les 4 chevaux vous y suivront. Vous en connaissez déjà 2. Et vous m'avez paru les apprécier en amateur. Ce sont ceux que nous montions. Rapportez-vous-en à moi, les autres ne leur seront point inférieurs. Ces 4 chevaux sont équipés pour la campagne. Si fiers que vous soyez, vous ne refuserez pas d'en accepter un et de faire accepter les 3 autres à vos compagnons. C'est pour nous faire la guerre, d'ailleurs. la fin excuse les moyens, comme vous dites, vous autres Français, n'est-ce pas ?»«
Oui, milord, j'accepte, » dit D'Artagnan, « et s'il plaît à Dieu, nous ferons bon usage de vos présents.
Maintenant votre main, jeune homme. Peut-être nous rencontrerons-nous bientôt sur le champ de bataille, mais en attendant, nous nous quitterons bons amis, je l'espère. »
Oui, milord, mais avec l'espérance de devenir ennemis bientôt.
Soyez tranquille, je vous le promets.
Je compte sur votre parole, milord.
D'Artagnan salua le duc et s'avança vivement vers le port. En face de la tour de Londres, il trouva le bâtiment désigné, remit sa lettre au capitaine, qui la fit viser par le gouverneur du port et appareilla aussitôt. 50 bâtiments étaient en partance et attendaient. En passant bord à bord de l'un d'eux, D'Artagnan crut reconnaître la femme de Meung, la même que le gentilhomme inconnu avait appelée Milady et que lui, D'Artagnan, avait trouvée si belle. Mais grâce au courant du fleuve et au bon vent qui soufflait, son navire allait si vite qu'au bout d'un instant, on fut hors de vue. Le lendemain, vers 9 heures du matin, on aborda à Saint-Valéry. D'Artagnan se dirigea à l'instant même vers l'auberge indiquée et la reconnut aux cris qui s'en échappaient. On parlait de guerre entre l'Angleterre et la France comme de choses prochaines et indubitables, et les matelots joyeux faisaient bombance. D'Artagnan fendit la foule, s'avança vers l'hôte et prononça le mot « forward ». À l'instant même, l'hôte lui fit signe de le suivre. Sortit avec lui par une porte qui donnait dans la cour, le conduisit à l'écurie, où l'attendait un cheval tout sellé, et lui demanda s'il avait besoin de quelque autre chose.
« J'ai besoin de connaître la route que je dois suivre, » dit D'Artagnan. « Allez d'ici à Blangy, et de Blangy à Neuchâtel. À Neuchâtel, entrez à l'auberge de la Herse d'Or, donnez le mot d'ordre à l'hôtelier, et vous trouverez comme ici un cheval tout sellé. »«
Dois-je quelque chose ?» demanda D'Artagnan.
« Tout est payé, » dit l'hôte, « et largement. Allez donc, et que Dieu vous conduise. »«
Amen, » répondit le jeune homme en partant au galop. 4 heures après, il était à Neuchâtel. Il suivit strictement les instructions reçues. À Neuchâtel, comme à Saint-Valéry, il trouva une monture toute salée et qui l'attendait. Il voulut transporter les pistolets de la selle qu'il venait de quitter à la selle qu'il allait prendre. Les fontes étaient garnies de pistolets pareils.
« Votre adresse à Paris ?»«
Hôtel des gardes, compagnie des essarts. »
« Bien, » répondit l'hôte.
« Quelle route faut-il prendre ?» demanda à son tour D'Artagnan.
« Celle de Rouen, mais vous laisserez la ville à votre droite. Au petit village d'Écouy, vous vous arrêterez. Il n'y a qu'une auberge, l'Écu de France. Ne la jugez pas d'après son apparence. Elle aura dans ses écuries un cheval qui vaudra celui-ci. »
« Même mot d'ordre ?»«
Exactement. »
« Adieu, maître. »
« Bon voyage, gentilhomme. Avez-vous besoin de quelque chose ?»
D'Artagnan fit signe de la tête que non, et repartit à fond de train. À Écouy, la même scène se répéta. Il trouva un hôte aussi prévenant, un cheval frais et reposé. Il laissa son adresse comme il l'avait fait, et repartit du même train pour Pontoise. À Pontoise, il changea une dernière fois de monture, et à 9 heures, il entrait au grand galop dans la cour de l'hôtel de M. de Tréville. Il avait fait près de 60 lieues en 12 heures. M. de Tréville le reçut comme s'il l'avait vu le matin même, seulement en lui serrant la main un peu plus vivement que de coutume. Il lui annonça que la compagnie de M. des Essarts était de garde au Louvre, et qu'il pouvait se rendre à son poste. Fin du chapitre 21.
Chapitre 22 des Trois Mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J. C. Gouin. Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas. Chapitre 22. Le ballet de la Merlaison. Le lendemain, il n'était bruit dans tout Paris que du bal que messieurs les échevins de la ville donnaient au roi et à la reine, et dans lequel leur majesté devait danser le fameux ballet de la Merlaison, qui était le ballet favori du roi. Depuis 8 jours, on préparait, en effet, toutes choses à l'hôtel de ville pour cette solennelle soirée. Le menuisier de la ville avait dressé des échafauds sur lesquels devaient se tenir les dames invitées. L'épicier de la ville avait garni les salles de 200 flambeaux de cire blanche, ce qui était un luxe inouï pour cette époque. Enfin, 20 violons avaient été prévenus, et le prix qu'on leur accordait avait été fixé au double du prix ordinaire, attendu, dit ce rapport, qu'il devait sonner toute la nuit. À 10 heures du matin, le sieur de Lacoste, enseigne des gardes du roi, suivi de 2 exempts et de plusieurs archers du corps, vint demander au greffier de la ville, nommé Clément, toutes les clés des portes, des chambres et des bureaux de l'hôtel. Ces clés lui furent remises à l'instant même. Chacune d'elles portait un billet qui devait servir à la faire reconnaître, et à partir de ce moment, le sieur de Lacoste fut chargé de la garde de toutes les portes et de toutes les avenues. À 11 heures, vint à son tour Duhallier, capitaine des gardes, amenant avec lui 50 archers qui se répartirent aussitôt dans l'hôtel de ville, aux portes qui leur avaient été assignées. À 3 heures, arrivèrent 2 compagnies de gardes, l'une française, l'autre suisse. La compagnie des gardes françaises était composée, moitié des hommes de M. Duhallier, moitié des hommes de M. des Essarts. À 6 heures du soir, les invités commencèrent à entrer. À mesure qu'ils entraient, ils étaient placés dans la grande salle, sur les échafauds préparés. À 9 heures, arriva Madame la première présidente. Comme c'était, après la reine, la personne la plus considérable de la fête, elle fut reçue par messieurs de la ville et placée dans la loge en face de celle que devait occuper la reine. À 10 heures, on dressait la collation des confitures pour le roi, dans la petite salle du côté de l'église Saint-Jean, et cela en face du buffet d'argent de la ville, qui était gardé par 4 archers. À minuit, on entendit de grands cris et de nombreuses acclamations. C'était le roi qui s'avançait à travers les rues qui conduisent du Louvre à l'hôtel de ville, et qui étaient toutes illuminées avec des lanternes de couleur. Aussitôt, messieurs les échevins, vêtus de leurs robes de drap et précédés de 6 sergents, tenant chacun un flambeau à la main, allèrent au-devant du roi, qu'ils rencontrèrent sur les degrés, où le prévôt des marchands lui fit un compliment sur sa bienvenue, compliment auquel Sa Majesté répondit, en s'excusant, d'être venu si tard, mais en rejetant la faute sur M. le cardinal, qui l'avait retenu jusqu'à 11 heures pour parler des affaires de l'État. Sa Majesté, en habit de cérémonie, était accompagnée de Son Altesse Royale, Monsieur, du Comte de Soissons, du Grand Prieur, du Duc de Longueville, du Duc d'Elbeuf, du Comte d'Harcourt, du Comte de la Roche-Guyon, de M. de Liancourt, de M. de Baradas, du Comte de Cramel et du Chevalier de Souveray. Chacun remarqua que le roi avait l'air triste et préoccupé. Un cabinet avait été préparé pour le roi et un autre pour monsieur. Dans chacun de ces cabinets étaient déposés des habits de masque. Autant avait été fait pour la reine et pour Madame la Présidente. Les seigneurs et les dames de la suite de leur majesté devaient s'habiller 2 par 2 dans des chambres préparées à cet effet. Avant d'entrer dans le cabinet, le roi recommanda qu'on le vînt prévenir aussitôt que paraîtrait le cardinal. Une demi-heure après l'entrée du roi, de nouvelles acclamations retentirent. Celles-là annonçaient l'arrivée de la reine. Les échevins firent ainsi qu'ils avaient fait déjà, et précédés des sergents, ils s'avancèrent au-devant de leur illustre convive. La reine entra dans la salle. On remarqua que, comme le roi, elle avait l'air triste et surtout fatiguée. Au moment où elle entrait, le rideau d'une petite tribune, qui jusque-là était resté fermé, s'ouvrit, et l'on vit apparaître la tête pâle du cardinal, vêtu en cavalier espagnol. Ses yeux se fixèrent sur ceux de la reine, et un sourire de joie terrible
passa sur ses lèvres. La reine n'avait pas ses ferrets de diamants. La reine resta quelque temps à recevoir les compliments de messieurs de la ville et à répondre au salut des dames. Tout à coup, le roi apparut avec le cardinal à l'une des portes de la salle. Le cardinal lui parlait tout bas, et le roi était très pâle. Le roi fendit la foule, et sans masque, les rubans de son pourpoint à peine noués, il s'approcha de la reine, et d'une voix altérée, « Madame, lui dit-il, pourquoi donc, s'il vous plaît, n'avez-vous point vos ferrets de diamants, quand vous savez qu'il m'eût été agréable de les voir ?» La reine étendit son regard autour d'elle et vit derrière le cardinal qui souriait d'un sourire diabolique. « Sire, répondit la reine d'une voix altérée, parce qu'au milieu de cette grande foule, j'ai craint qu'il ne leur arrivât malheur. Et vous avez eu tort, madame. Si je vous ai fait ce cadeau, c'était pour que vous vous en pariez. Je vous dis que vous avez eu tort. » Et la voix du roi était tremblante de colère. Chacun regardait et écoutait avec étonnement, ne comprenant rien à ce qui se passait. « Sire, dit la reine, je puis les envoyer chercher au Louvre, où ils sont, et ainsi les désirs de votre majesté seront accomplis. Faites, madame, faites, et cela au plus tôt, car dans une heure, le balai va commencer. » La reine salua, en signe de soumission, et suivit les dames qui devaient la conduire à son cabinet. De son côté, le roi regagna le sien. Il y eut dans la salle un moment de trouble et de confusion. Tout le monde put remarquer qu'il s'était passé quelque chose entre le roi et la reine. Mais tous deux avaient parlé si bas que chacun, par respect, s'était éloigné de quelques pas. Personne n'avait rien entendu. Les violons sonnaient de toutes leurs forces, mais on ne les écoutait pas. Le roi sortit le premier de son cabinet. Il était en costume de chasse des plus élégants, et monsieur et les autres seigneurs étaient habillés comme lui. C'était le costume que le roi portait le mieux, et vêtu ainsi, il semblait véritablement le premier gentilhomme de son royaume. Le cardinal s'approcha du roi et lui remit une boîte. Le roi l'ouvrit et y trouva deux ferrets de diamants. « Que veut dire tout cela ? » demanda-t-il au cardinal. « Rien, répondit celui-ci. Seulement, si la reine a les ferrets, ce dont je doute, comptez-les, sire, et si vous n'en trouvez que 10, demandez à sa majesté qui peut lui avoir dérobé les deux ferrets que voici. » Le roi regarda le cardinal comme pour l'interroger, mais il n'eut le temps de lui adresser aucune parole. Un cri d'admiration sortit de toutes les bouches. Si le roi semblait le premier gentilhomme de son royaume, la reine était à coup sûr la plus belle femme de France. Il est vrai que sa toilette de chasseresse lui allait à merveille. Elle avait un chapeau de feutre avec des plumes bleues, un surtout en velours gris-perle rattaché avec des agrafes de diamants, et une jupe de satin bleu toute brodée d'argent. Sur son épaule gauche étincelaient les ferrets soutenus par un nœud de même couleur que les plumes et la jupe. Le roi tressaillit de joie et le cardinal de colère. Cependant, distant comme il l'était de la reine, il ne pouvait compter les ferrets. La reine les avait. Seulement, en avait-elle 10 ou en avait-elle 12? En ce moment, les violons sonnèrent le signal du balai. Le roi s'avança vers madame la présidente avec laquelle il devait danser, et son Altesse Monsieur avec la reine. On se mit en place, et le ballet commença. Le roi figurait en face de la reine, et à chaque fois qu'il passait près d'elle, il dévorait du regard ses ferrets, dont il ne pouvait savoir le compte. Une sueur froide couvrait le front du cardinal. Le ballet dura une heure. Il avait 16 entrées. Le ballet finit, au milieu des applaudissements de toute la salle, chacun reconduisit sa dame à sa place, mais le roi profita du privilège qu'il avait de laisser la sienne où il se trouvait pour s'avancer vivement vers la reine. « Je vous remercie, madame, lui dit-il, de la déférence que vous avez montrée pour mes désirs, mais je crois qu'il vous manque deux ferrets, et je vous les rapporte. » À ces mots, il tendit à la reine les deux ferrets que lui avait remis le cardinal. « Comment, sire ? » s'écria la reine, jouant la surprise. « Vous m'en donnez encore deux autres ? Mais alors, cela m'en fera donc 14 ?» En effet, le roi compta, et les 12 ferrets se trouvèrent sur l'épaule de sa majesté. Le roi appela le cardinal. « Eh bien, que signifie cela, monsieur le cardinal ?» demanda le roi d'un ton sévère. « Cela signifie, sire, répondit le cardinal, que je désirais faire accepter ces deux ferrets à sa majesté, et que, n'osant les lui offrir moi-même, j'ai adopté ce moyen. « Et j'en suis d'autant plus reconnaissante à votre éminence, répondit Anne d'Autriche, avec un sourire qui prouvait qu'elle n'était pas dupe de cette ingénieuse galanterie, que je suis certaine que ces deux ferrets vous coûtent aussi cher à eux seuls que les 12 autres ont coûté à sa majesté. » Puis, ayant salué le roi et le cardinal, la reine reprit le chemin de la chambre où elle s'était habillée et où elle devait se dévêtir. L'attention que nous avons été obligés de donner pendant le commencement de ce chapitre au personnage illustre que nous y avons introduit nous a écarté un instant de celui à qui Anne d'Autriche devait le triomphe inouï qu'elle venait de remporter sur le cardinal, et qui, confondu, ignoré, perdu dans la foule entassée à l'une des portes, regardait de là cette scène compréhensible seulement pour 4 personnes. Le roi, la reine, son éminence et lui. La reine venait de regagner sa chambre, et D'Artagnan s'apprêtait à se retirer lorsqu'il sentit qu'on lui touchait légèrement l'épaule. Il se retourna et vit une jeune femme qui lui faisait signe de la suivre. Cette jeune femme avait le visage couvert d'un loup de velours noir. Mais malgré cette précaution, qui au reste était bien plutôt prise pour les autres que pour lui, il reconnut à l'instant même son guide ordinaire, la légère et spirituelle Madame Bonacieux. La veille, il s'était vu à peine chez le Suisse Germain, où D'Artagnan l'avait fait demander. La hâte qu'avait la jeune femme de porter à la reine cette excellente nouvelle de l'heureux retour de son messager fit que les deux amants échangèrent à peine quelques paroles. D'Artagnan suivit donc Madame Bonacieux, mu par un double sentiment, l'amour et la curiosité. Pendant toute la route, et à mesure que les corridors devenaient plus déserts, D'Artagnan voulait arrêter la jeune femme, la saisir, la contempler, ne fût-ce qu'un instant. Mais vive comme un oiseau, elle glissait toujours entre ses mains. Et lorsqu'il voulait parler, son doigt ramené sur sa bouche, avec un petit geste impératif plein de charme, lui rappelait qu'il était sous l'empire d'une puissance à laquelle il devait aveuglément obéir, et qui lui interdisait jusqu'à la plus légère plainte. Enfin, après une minute ou deux de tours et de détours, Madame Bonacieux ouvrit une porte et introduisit le jeune homme dans un cabinet tout à fait obscur. Là, elle lui fit un nouveau signe de mutisme, et ouvrant une seconde porte cachée par une tapisserie, dont les ouvertures répandirent tout à coup une vive lumière, elle disparut. D'Artagnan demeura un instant immobile, et se demandant où il était. Mais bientôt, un rayon de lumière qui pénétrait par cette chambre, l'air chaud et parfumé qui arrivait jusqu'à lui, la conversation de 2 ou 3 femmes, au langage à la fois respectueux et élégant, le mot de majesté plusieurs fois répété, lui indiquèrent clairement qu'il était dans un cabinet attenant à la chambre de la reine. Le jeune homme se tint dans l'ombre et attendit. La reine paraissait gaie et heureuse, ce qui semblait fort étonner les personnes qui l'entouraient, et qui avaient au contraire l'habitude de la voir presque toujours soucieuse. La reine rejetait ce sentiment joyeux sur la beauté de la fête, sur le plaisir que lui avait fait éprouver le ballet, et, comme il n'est pas permis de contredire une reine, qu'elle sourit ou qu'elle pleure, chacun renchérissait sur la galanterie de messieurs les échevins de la ville de Paris. Quoique D'Artagnan ne connut point la reine, il distingua bientôt sa voix des autres voix, d'abord à un léger accent étranger, puis à ce sentiment de domination naturellement empreint dans toutes les paroles souveraines. Il l'entendait s'approcher et s'éloigner de cette porte ouverte. Et deux ou trois fois, il vit même l'ombre d'un corps intercepter la lumière. Enfin, tout à coup, une main et un bras adorables de forme et de blancheur passèrent à travers la tapisserie. D'Artagnan comprit que c'était là sa récompense. Il se jeta à genoux, saisit cette main et y appuya respectueusement ses lèvres. Puis cette main se retira, laissant dans les siennes un objet qu'il reconnut pour être une bague. Aussitôt, la porte se referma et D'Artagnan se retrouva dans la plus complète obscurité. D'Artagnan mit la bague à son doigt et attendit de nouveau. Il était évident que tout n'était pas fini encore. Après la récompense de son dévouement, venait la récompense de son amour. D'ailleurs, le ballet était dansé, mais la soirée était à peine commencée. On soupait à 3 heures, et l'horloge Saint-Jean, depuis quelque temps déjà, avait sonné 2h15. En effet, peu à peu, le bruit des voix diminua dans la chambre voisine. Puis on l'entendit s'éloigner, puis la porte du cabinet où était D'Artagnan se rouvrit, et Madame Bonacieux s'y élança. « Vous, enfin !» s'écria D'Artagnan. « Silence !» dit la jeune femme, en appuyant sa main sur les lèvres du jeune homme. « Silence, et allez-vous-en par où vous êtes venu. » « Mais où et quand vous reverrai-je » s'écria D'Artagnan. « Un billet que vous trouverez en rentrant vous le dira. Partez, partez !» Et à ces mots, elle ouvrit la porte du corridor et poussa D'Artagnan hors du cabinet. D'Artagnan obéit comme un enfant, sans résistance et sans objection aucune, ce qui prouve qu'il était bien réellement amoureux. Fin du chapitre 22. Chapitre 23 des Trois Mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J. C. Guan. Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas. Chapitre 23. Le rendez-vous. D'Artagnan revint chez lui tout courant, et quoiqu'il fût plus de 3 heures du matin, et qu'il eût les plus méchants quartiers de Paris à traverser, il ne fit aucune mauvaise rencontre. On sait qu'il y a un dieu pour les ivrognes et les amoureux. Il trouva la porte de son allée entrouverte, monta son escalier et frappa doucement et d'une façon convenue entre lui et son laquais. Planchet, qu'il avait renvoyé 2 heures auparavant de l'hôtel de ville en lui recommandant de l'attendre, vint lui ouvrir la porte. « Quelqu'un a-t-il apporté une lettre pour moi ?» demanda vivement D'Artagnan. « Personne n'a apporté de lettre, monsieur, » répondit Planchet. « Mais il y en a une qui est venue toute seule. »« Que veux-tu dire, imbécile ?»« Je veux dire qu'en rentrant, quoique j'eusse la clé de votre appartement dans ma poche et que cette clé ne m'eût point quitté, j'ai trouvé une lettre sur le tapis vert de la table, dans votre chambre à coucher. » « Et où est cette lettre ?»« Je l'ai laissée où elle était, monsieur. Il n'est pas naturel que les lettres entrent ainsi chez les gens. Si la fenêtre était ouverte encore, ou seulement entrebâillée, je ne dis pas. Mais non, tout était hermétiquement fermé. Monsieur, prenez garde, car il y a très certainement quelque magie là-dessous. » Pendant ce temps, le jeune homme s'élançait dans la chambre et ouvrait la lettre. Elle était de Madame Bonacieux et conçue en ces termes. On a de vifs remerciements à vous faire et à vous transmettre. Trouvez-vous ce soir vers les 10 heures à Saint-Claude, en face du pavillon qui s'élève à l'angle de la maison de Monsieur d'Estrées. C.B. En lisant cette lettre, D'Artagnan sentait son cœur se dilater et s'étreindre de ce doux spasme qui torture et caresse le cœur des amants. C'était le premier billet qu'il recevait, c'était le premier rendez-vous qui lui était accordé. Son cœur, gonflé par l'ivresse de la joie,
se sentait prête à défaillir sur le seuil de ce paradis terrestre qu'on appelait l'amour.
« Eh bien, monsieur, » dit Planchet, qui avait vu son maître rougir et pâlir successivement, « eh bien, n'est-ce pas que j'avais deviné juste et que c'est quelque méchante affaire ?»«
Tu te trompes, Planchet, » répondit D'Artagnan. « Et la preuve, c'est que voici un écu pour que tu boives à ma santé. Je remercie monsieur de l'écu qu'il me donne, et je lui promets de suivre exactement ses instructions. Mais il n'en est pas moins vrai que les lettres qui entrent ainsi dans les maisons fermées. Tombe du ciel, mon ami, tombe du ciel.
Alors, monsieur est content ? Demanda Planchet.
Mon cher Planchet, je suis le plus heureux des hommes.
Et je puis profiter du bonheur de monsieur pour aller me coucher ?
Oui, va.
Que toutes les bénédictions du ciel tombent sur monsieur. Mais il n'en est pas moins vrai que cette lettre.
Et Planchet se retira en secouant la tête avec un air de doute, que n'était point parvenu à effacer entièrement la libéralité de D'Artagnan.
Resté seul, D'Artagnan lut et relut son billet, puis il baisa et rebaisa 20 fois ces lignes tracées par la main de sa belle maîtresse. Enfin, il se coucha, s'endormit et fit des rêves d'or. À 7 heures du matin, il se leva et appela Planchet, qui, au second appel, ouvrit la porte, le visage encore mal nettoyé des inquiétudes de la veille. « Planchet, lui dit D'Artagnan, je sors pour toute la journée, peut-être. Tu es donc libre jusqu'à 7 heures du soir. Mais à 7 heures du soir, tiens-toi prêt avec 2 chevaux. »«
Allons, dit Planchet, il paraît que nous allons encore nous faire traverser la peau en plusieurs endroits.
Tu prendras ton mousqueton et tes pistolets. »«
Eh bien, que disais-je ? S'écria Planchet. La journée était sûre, maudite lettre.
Mais rassure-toi donc, imbécile. Il s'agit tout simplement d'une partie de plaisir.
Oh, comme les voyages d'agrément de l'autre jour, où pleuvaient des balles et où il poussait des chausse-trappes.
Au reste, si vous avez peur, monsieur Planchet, reprit D'Artagnan, j'irai sans vous. J'aime mieux voyager seul que d'avoir un compagnon qui tremble.
« Monsieur me fait injure, dit Planchet. Il me semblait cependant qu'il m'avait vu à l'œuvre.
« Oui, mais j'ai cru que tu avais usé tout ton courage d'une seule fois.
Monsieur verra que dans l'occasion, il m'en reste encore. Seulement, je prie monsieur de ne pas trop le prodiguer, s'il veut qu'il m'en reste longtemps.
« Crois-tu en avoir encore une certaine somme à dépenser ce soir ?
Je l'espère.
Eh bien, je compte sur toi.
À l'heure dite, je serai prêt. Seulement, je croyais que monsieur n'avait qu'un cheval à l'écurie des gardes.
Peut-être n'y en a-t-il qu'un encore dans ce moment-ci.
Mais ce soir, il n'y en aura 4.
Il paraît que notre voyage était un voyage de remonte.
Justement, dit D'Artagnan.
Et ayant fait à Planchet un dernier geste de recommandation, il sortit. Monsieur Bonacieux était sur sa porte. L'intention de D'Artagnan était de passer outre, sans parler au digne mercier. Mais celui-ci fit un salut si doux et si bénin que force fut à son locataire non seulement de le lui rendre, mais encore de lier conversation avec lui.
Comment d'ailleurs ne pas avoir un peu de condescendance pour un mari dont la femme vous a donné un rendez-vous le soir même à Saint-Cloud, en face du pavillon de M. d'Estrées. D'Artagnan s'approcha de l'air le plus aimable qu'il put prendre. La conversation tomba tout naturellement sur l'incarcération du pauvre homme. M. Bonacieux, qui ignorait que D'Artagnan eût entendu sa conversation avec l'inconnu de Meung, raconta à son jeune locataire les persécutions de ce monstre de M. Laffema, qu'il ne cessa de qualifier pendant tout son récit du titre de bourreau du cardinal, et s'étendit longuement sur la Bastille, les verrous, les guichets, les soupiraux, les grilles et les instruments de torture. D'Artagnan l'écouta avec une complaisance exemplaire. Puis, lorsqu'il eut fini,
« Et madame Bonacieux, dit-il enfin, savez-vous qui l'avait enlevé ? Car je n'oublie pas que c'est à cette circonstance fâcheuse que je dois le bonheur d'avoir fait votre connaissance. Ah, dit Monsieur Bonacieux, ils se sont bien gardés de me le dire, et ma femme de son côté m'a juré ses grands dieux qu'elle ne le savait pas. Mais vous-même, continua Monsieur Bonacieux, d'un ton de bonhomie parfaite, qu'êtes-vous devenu tous ces jours passés? Je ne vous ai vu, ni vous, ni vos amis, et ce n'est pas sur le pavé de Paris, je pense, que vous avez ramassé toute la poussière que Planchet époussetait hier sur vos bottes. Vous avez raison, mon cher monsieur Bonacieux. Mes amis et moi, nous avons fait un petit voyage. Loin d'ici? Oh, mon Dieu, non! À une quarantaine de lieues seulement. Nous avons été conduire monsieur Athos aux eaux de Forge, où mes amis sont restés. Et vous êtes revenu, vous, n'est-ce pas? Reprit monsieur Bonacieux, en donnant à sa physionomie son air le plus malin. Un beau garçon comme vous n'obtient pas de long congé de sa maîtresse. Et nous étions impatiemment attendus à Paris, n'est-ce pas? Ma foi, dit en riant le jeune homme, je vous l'avoue, d'autant mieux, mon cher monsieur Bonacieux, que je vois qu'on ne peut rien vous cacher. Oui, j'étais attendu, et bien impatiemment, je vous en réponds. Un léger nuage passa sur le front de Bonacieux, mais si léger que D'Artagnan ne s'en aperçut pas. Et nous allons être récompensés de notre diligence, continua le mercier, avec une légère altération dans la voix. Altération que D'Artagnan ne remarqua pas plus qu'il n'avait fait du nuage momentané qui, un instant auparavant, avait assombri la figure du digne homme. Ah, faites donc le bon apôtre, dit en riant D'Artagnan. Non, ce que je vous en dis, reprit Bonacieux, c'est seulement pour savoir si nous rentrons tard. Pourquoi cette question, mon cher hôte? Demanda D'Artagnan. Est-ce que vous comptez m'attendre? Non, c'est que depuis mon arrestation et le vol qui a été commis chez moi, je m'effraie chaque fois que j'entends ouvrir une porte, et surtout la nuit. Dame, que voulez-vous? Je ne suis point homme d'épée, moi. Eh bien, ne vous effrayez pas si je rentre à 1 heure, à 2 ou 3 heures du matin. Si je ne rentre pas du tout, ne vous effrayez pas encore. Cette fois, Bonacieux devint si pâle que D'Artagnan ne put faire autrement que de s'en apercevoir, et lui demanda ce qu'il avait. « Rien, répondit Bonacieux, rien. Depuis mes malheurs seulement, je suis sujet à des faiblesses qui me prennent tout à coup, et je viens de me sentir passer un frisson. Ne faites pas attention à cela, vous qui n'avez à vous occuper que d'être heureux. Alors j'ai de l'occupation, car je le suis. Pas encore, attendez donc. Vous avez dit à ce soir. Eh bien, ce soir arrivera, Dieu merci, et peut-être l'attendrez-vous avec autant d'impatience que moi. Peut-être ce soir, Madame Bonacieux visitera-t-elle le domicile conjugal. Madame Bonacieux n'est pas libre ce soir, répondit gravement le mari. Elle est retenue au Louvre par son service. Tant pis pour vous, mon cher hôte, tant pis. Quand je suis heureux, moi, je voudrais que tout le monde le fût. Mais il paraît que ce n'est pas possible. Et le jeune homme s'éloigna en riant aux éclats de la plaisanterie que lui seul, pensait-il, pouvait comprendre. Amusez-vous bien, répondit Bonacieux d'un air sépulcral. Mais D'Artagnan était déjà trop loin pour l'entendre, et l'eût-il entendu, dans la disposition d'esprit où il était, il ne l'eût certes pas remarqué. Il se dirigea vers l'hôtel de M. de Tréville. Sa visite de la veille avait été, on se le rappelle, très courte et peu explicative. Il trouva M. de Tréville dans la joie de son âme. Le roi et la reine avaient été charmants pour lui au bal. Il est vrai que le cardinal avait été parfaitement maussade. À 1 heure du matin, il s'était retiré sous prétexte qu'il était indisposé. Quant à leur majesté, elle n'était rentrée au Louvre qu'à 6 heures du matin. « Maintenant, dit M. de Tréville, en baissant la voix et en interrogeant du regard tous les angles de l'appartement pour voir s'ils étaient bien seuls. « Maintenant, parlons de vous, mon jeune ami, car il est évident que votre heureux retour est pour quelque chose dans la joie du roi, dans le triomphe de la reine et dans l'humiliation de son éminence. Il s'agit de bien vous tenir. » « Qu'ai-je à craindre, répondit d'Artagnan, tant que j'aurai le bonheur de jouir de la faveur de leur majesté.
Tout, croyez-moi, le cardinal n'est point homme à oublier une mystification tant qu'il n'aura pas réglé ses comptes avec le mystificateur. Et le mystificateur m'a bien l'air d'être certain gascon de ma connaissance.
Croyez-vous que le cardinal soit aussi avancé que vous, et sache que c'est moi qui ai été à Londres?
Diable, vous avez été à Londres? Est-ce de Londres que vous avez rapporté ce beau diamant qui brille à votre doigt?
Prenez garde, mon cher d'Artagnan, ce n'est pas une bonne chose que le présent d'un ennemi. N'y a-t-il pas là-dessus certains vers latins?
Attendez donc.
Oui, sans doute, reprit d'Artagnan, qui n'avait jamais pu se fourrer la première règle du rudiment dans la tête, et qui, par ignorance, avait fait le désespoir de son précepteur.
Oui, sans doute, il doit y en avoir un.
Il y en a un certainement, dit M. de Tréville, qui avait une teinte de lettres, et M. de Benserade me le citait l'autre jour.
Attendez donc.
Ah, m'y voici. Timeo Danaos et Dona Ferentes. Ce qui veut dire, défiez-vous de l'ennemi qui vous fait des présents.
Ce diamant ne vient pas d'un ennemi, monsieur, reprit d'Artagnan.
Il vient de la reine.
De la reine?
Oh! Oh! Dit monsieur de Tréville. Effectivement, c'est un véritable bijou royal, qui vaut 1000 pistoles comme un denier.
Par qui la reine vous a-t-elle fait remettre ce cadeau?
Elle me l'a remis elle-même.
Où cela?
Dans le cabinet, attenant à la chambre où elle a changé de toilette.
Comment?
En me donnant sa main à baiser.
Vous avez baisé la main de la reine?
S'écria monsieur de Tréville en regardant d'Artagnan.
Sa majesté m'a fait l'honneur de m'accorder cette grâce.
Et cela en présence de témoins? Imprudente, trois fois imprudente.
Non, monsieur, rassurez-vous, personne ne l'a vu, reprit d'Artagnan.
Et il raconta à M. de Tréville comment les choses s'étaient passées.
Oh, les femmes, s'écria le vieux soldat. Je les reconnais bien à leur imagination romanesque. Tout ce qui sent le mystérieux les charme. Ainsi, vous avez vu le bras, voilà tout. Vous rencontreriez la reine, que vous ne la reconnaîtriez pas. Elle vous rencontrerait, qu'elle ne saurait pas qui vous êtes.
Non, mais grâce à ce diamant, reprit le jeune homme.
Écoutez, dit M. de Tréville, voulez-vous que je vous donne un conseil, un bon conseil, un conseil d'ami?
Vous me ferez honneur, monsieur, dit d'Artagnan.
Eh bien, allez chez le premier orfèvre venu, et vendez-lui ce diamant pour le prix qu'il vous en donnera. Si juif qu'il soit, vous en trouverez toujours bien 800 pistoles. Les pistoles n'ont pas de nom, jeune homme, et cette bague en a un terrible, et qui peut trahir celui qui la porte.
Vendre cette bague, une bague qui vient de ma souveraine.
Jamais, dit d'Artagnan.
Alors tournez-en le chaton en dedans, pauvre fou, car on sait qu'un cadet de Gascogne ne trouve pas de pareils bijoux dans l'écrin de sa mère.
Vous croyez donc que j'ai quelque chose à craindre? Demanda d'Artagnan.
C'est-à-dire, jeune homme, que celui qui s'endort sur une mine dont la mèche est allumée doit se regarder comme en sûreté en comparaison de vous.
Diable, dit d'Artagnan, que le ton d'assurance de M. de Tréville commençait à inquiéter.
Diable, que faut-il faire?
Vous tenir sur vos gardes toujours, et avant toute chose. Le cardinal a la mémoire tenace et la main longue.
Croyez-moi, il vous jouera quelque tour.
Mais lequel?
Et le sais-je, moi? Est-ce qu'il n'a pas à son service toutes les ruses du démon?
Le moins qui puisse vous arriver est qu'on vous arrête.
Comment? On oserait arrêter un homme au service de sa majesté?
Par Dieu, on s'est bien gêné pour Athos.
En tout cas, jeune homme, croyez-en un homme qui est depuis 30 ans à la cour. Ne vous endormez pas dans votre sécurité, ou vous êtes perdu. Bien au contraire, et c'est moi qui vous le dis, voyez des ennemis partout. Si l'on vous cherche querelle, évitez-la, fût-ce un enfant de 10 ans qui vous la cherche. Si l'on vous attaque de nuit ou de jour, battez en retraite et sans honte. Si vous traversez un pont, tâtez les planches, de peur qu'une planche ne vous manque sous le pied. Si vous passez devant une maison qu'on bâtit, regardez en l'air de peur qu'une pierre ne vous tombe sur la tête. Si vous rentrez tard, faites-vous suivre par votre laquais, et que votre laquais soit armé, si toutefois vous êtes sûr de votre laquais. Défiez-vous de tout le monde, de votre ami, de votre frère, de votre maîtresse surtout. »
D'Artagnan rougit. « De ma maîtresse, » répéta-t-il machinalement. « Et pourquoi plutôt d'elle que d'un autre ?»«
C'est que la maîtresse est un des moyens favoris du cardinal. Il n'en a pas de plus expéditif. Une femme vous vend pour 10 pistoles, témoin d'Alila. Vous savez les écritures, hein ?»
D'Artagnan pensa au rendez-vous que lui avait donné Madame Bonacieux pour le soir même. Mais nous venons de dire, à la louange de notre héros, que la mauvaise opinion que M. de Tréville avait des femmes, en général, ne lui inspira pas le moindre petit soupçon contre sa jolie hôtesse.
« Mais à propos, » reprit M. de Tréville, « que sont devenus vos 3 compagnons ?
J'allais vous demander si vous n'en aviez pas appris quelques nouvelles. »«
Aucune, monsieur. » »«
Eh bien, je les ai laissés sur ma route. Porthos à Chantilly, avec un duel sur les bras. » Aramis à Crèvecœur, avec une balle dans l'épaule, et Athos à Amiens, avec une accusation de faux monnayeur sur le corps.
« Voyez-vous, » dit M. de Tréville, « et comment vous êtes-vous échappé, vous ?»«
Par miracle, monsieur, je dois le dire, avec un coup d'épée dans la poitrine, et en clouant M. le comte de Wardes sur le revers de la route de Calais, comme un papillon à une tapisserie.
« Voyez-vous encore, de Wardes, un homme au cardinal. » Un cousin de Rochefort. Tenez, mon cher ami, il me vient une idée.
Dites, monsieur.
À votre place, je ferais une chose.
Laquelle?
Tandis que son éminence me ferait chercher à Paris, je reprendrais, moi, sans tambour ni trompette, la route de Picardie, et m'en irais savoir des nouvelles de mes 3 compagnons. Que diable, il mérite bien cette petite attention de votre part.
Le conseil est bon, monsieur, et demain je partirai.
Demain?
Et pourquoi pas ce soir?
Ce soir, monsieur, je suis retenu à Paris pour une affaire indispensable.
Ah, jeune homme, quelle camourette! Prenez garde, je vous le répète, c'est la femme qui nous a perdus, tous tant que nous sommes, et qui nous perdra encore, tous tant que nous sommes. Croyez-moi, partez ce soir.
« Impossible, monsieur. »«
Vous avez donc donné votre parole ?»«
Oui, monsieur. »«
Alors c'est autre chose. »«
Mais promettez-moi que si vous n'êtes pas tué cette nuit, vous partirez demain. »«
Je vous le promets. »«
Avez-vous besoin d'argent ?»«
J'ai encore 50 pistoles. »« C'est autant qu'il m'en faut, je le pense. »«
Mais vos compagnons ?»«
Je pense qu'ils ne doivent pas en manquer. » « Nous sommes sortis de Paris, chacun avec 75 pistoles dans nos poches. »«
Vous reverrai-je avant votre départ ?»«
Non pas que je pense, monsieur, à moins qu'il n'y ait du nouveau. »«
Allons, bon voyage. »«
Merci, monsieur. »
Et D'Artagnan prit congé de M. de Tréville, touché plus que jamais de sa sollicitude toute paternelle pour ses mousquetaires. Il passa successivement chez Athos, chez Porthos et chez Aramis. Aucun d'eux n'était rentré. Leur laquais aussi était absent, et l'on n'avait des nouvelles ni des uns ni des autres. Ils se seraient bien informés d'eux à leur maîtresse, mais ils ne connaissaient ni celle de Porthos, ni celle d'Aramis. Quant à Athos, ils n'en avaient pas. En passant devant l'hôtel des gardes, il jeta un coup d'œil dans l'écurie. 3 chevaux étaient déjà rentrés sur 4. Planchet, tout ébahi, était en train de les étriller et avait déjà fini avec 2 d'entre eux.
« Ah, monsieur, » dit Planchet, en apercevant D'Artagnan, « que je suis bien aise de vous voir. »«
Et pourquoi cela, Planchet ?» demanda le jeune homme.
« Auriez-vous confiance en M. Bonacieux, notre hôte ?»«
Moi ? Pas le moins du monde. »«
Oh, que vous faites bien, monsieur. »«
Mais d'où vient cette question ?»«
De ce que, tandis que vous causiez avec lui, je vous observais sans vous écouter, monsieur. Sa figure a changé deux ou trois fois de couleur.
Bah, monsieur n'a pas remarqué cela, préoccupé qu'il était de la lettre qu'il venait de recevoir. Mais moi, au contraire, que l'étrange façon dont cette lettre était parvenue à la maison avait mis sur mes gardes, je n'ai pas perdu un mouvement de sa physionomie.
Et tu l'as trouvée ?
Traîtreuse, monsieur.
Vraiment.
De plus, aussitôt que monsieur l'a eu quitté et qu'il a disparu au coin de la rue, monsieur Bonacieux a pris son chapeau, a fermé sa porte et s'est mis à courir par la rue opposée.
En effet, tu as raison, Planchet. Tout cela me paraît fort louche. Et sois tranquille, nous ne lui paierons pas notre loyer que la chose ne nous ait été catégoriquement expliquée.
Monsieur plaisante, mais monsieur verra.
Que veux-tu, Planchet? Ce qui doit arriver est écrit.
Monsieur ne renonce donc pas à sa promenade de ce soir?
Bien au contraire, Planchet. Plus j'en voudrais à monsieur Bonacieux, et plus j'irai au rendez-vous que m'a donné cette lettre qui t'inquiète tant.
Alors si c'est la résolution de monsieur?
Inébranlable, mon ami.
Ainsi donc, à 9 heures, tiens-toi prêt ici, à l'hôtel. Je viendrai te prendre.
Planchet, voyant qu'il n'y avait plus aucun espoir de faire renoncer son maître à son projet, poussa un profond soupir et se mit à étriller le troisième cheval. Quant à D'Artagnan, comme c'était au fond un garçon plein de prudence, au lieu de rentrer chez lui, il s'en alla dîner chez ce prêtre gascon qui, au moment de la détresse des quatre amis, leur avait donné un déjeuner de chocolat.
Fin du chapitre 23.